Bonjour Rebecca Hendler.
Bonjour.
Alors vous intervenez à Rennes 2 pour une conférence sur le thème de l'égalité femmes-hommes. Vous venez notamment présenter votre essai « Le patriarcat des objets, pourquoi le monde ne convient pas aux femmes ?» Pour écrire votre ouvrage, vous êtes partie d'un fait que vous avez entendu. Une femme avait été verbalisée pour avoir préféré uriner dans un jardin public plutôt que dans une pissotière pour hommes, c'est ça ?
Oui, en fait, j'ai été mise... J'étais mise en conscience, non c'est pas... en fait, je devais faire un reportage de 5 minutes sur la potty parity pour la radio publique allemande. Et c'est à travers mes recherches là que justement je suis tombée sur l'histoire de Hete Pinning qui est en Irlande.
Oui, en Irlande, oui.
Qui en Irlande, justement, a fait des vagues dans les médias dans l'année 2015-2016. Et justement, parce qu'elle a fait, en plein milieu de la nuit, elle a fait pipi entre deux voitures, mais parce qu'il n'y avait pas de toilettes publiques qui étaient accessibles pour elle. Et il y avait tout un tas, alors je crois 3 douzaines de pissoirs pour utiliser avec un pénis, mais rien pour les personnes avec un vagin. Donc elle a refusé de payer l'amende, ça a été devant le juge, et le juge a trouvé qu'en fait, elle aurait dû apprendre à utiliser l'urinoir pour hommes, et le fait qu'elle soit la première femme qui soit atterrie dans sa salle pour pisser en public, en fait, lui, il en a dédié que c'était pas de problème pour les femmes, vu que c'est beaucoup plus souvent les hommes cisgenres qui se retrouvent dans sa salle, qui sont arrêtés pour pisser en public. Donc, il y a un plus grand manque pour les hommes que pour les femmes. Mais en fait, ça a heurté beaucoup de gens quand ça a été publié en Irlande et puis aussi même aux États-Unis, tout ça. Il y a beaucoup de médias qui sont intéressés à ça. Et il y a eu une réponse du public, des femmes qui ont essayé de prendre des photos d'elles-mêmes en utilisant l'épissoir pour hommes. Et ça, ces photos-là, elles ont été effacées des réseaux sociaux parce que justement, elles montraient trop de chair. Alors, c'est juste pour dire, c'est vraiment impossible. Enfin, non, pas carrément impossible, parce que j'ai lu aussi beaucoup de récits de sex workers des années 80 qui, justement, travaillaient dans les rues et qui avaient appris, en tant que femme, à pisser debout en public. Donc, ça se fait, mais c'est une culture, une pratique culturelle qu'il faut apprendre, qu'il faut entretenir. Ça s'exerce beaucoup et c'est pas forcément aussi faisable avec tous les vêtements qu'on met à notre disposition. Donc... Il y a tout un tas de problèmes qui sont liés à ça, mais c'est ça vraiment l'anecdote qui m'a dit, où je me suis dit, mais il faut absolument que je regarde, parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte justement que le design avait un aspect patriarcal, que même que j'ai fait des études de sociologie, politique, nanani, nanère, je ne m'étais jamais vraiment rendu compte que les choses qui m'entouraient avaient en elles-mêmes déjà été designées par des hommes, pour des hommes, donc qu'elles étaient patriarcales.
Oui, parce que sans parler des toilettes, les urinoirs qui ne sont pas faits pour les femmes, les pantalons aussi, on pourrait dire que ce n'est pas fait parce que la bringuette, voilà. C'est déjà de base fait pour les hommes et pas forcément pour les femmes.
Oui, il y a eu plein d'essais, par exemple, au début de la Covid, il y avait des femmes qui travaillaient, qui amenaient de la nourriture, des achats, tout ça, avec des vélos. Et vu que tous les toilettes publiques dans des bars, des restaurants, tout ça, c'était fermé, en fait, il y a eu une petite hausse de vente d'applis, de gadgets pour uriner dehors avec un vagin. Mais on s'est très vite rendu compte, justement, que les vêtements,
La fermeture ?
Oui, la braguette, non ?
Oui, la braguette fermeture, oui.
Braguette. Si on peut dire. Elle... Parce que chez nous, à la maison, ça s'appelait la draguette, mais en fait, c'est pas... qu'elle ne s'ouvrait pas assez loin. Et ouais, quand on essaye de pisser avec un pantalon sur soi, on en met partout, quoi. C'est pas fait pour ça. Donc oui, les vêtements ne sont pas faits pour ça non plus.
C'est ça, mais pourtant, la société voudrait que ce soit à nous de nous adapter à tout ça, parce que lors du tribunal que vous parliez tout à l'heure de l'histoire, en fait, monsieur le juge a dit, en fait, tant pis, il faut marcher plus longtemps, voilà. Mais
il y a cette idée historique, en fait, que même si, je ne sais pas si le juge, il en était conscient ou pas, mais il y a cette idée historique qui date d'il y a 300, 200 ans, que la place de la femme, ce n'est pas dans le public. Et quand les villes européennes ont commencé à construire la canalisation, en fait, il fallait rendre la canalisation visible pour les citoyens, parce que ça coûtait très cher. Et par exemple, l'éclairage public, bien sûr, tout le monde en profitait, donc les gens étaient pour, mais la canalisation, c'était plus compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a bâti des WC publics, les premiers WC publics, mais qui étaient uniquement pour les hommes d'importance, donc pour les hommes. Et il y avait beaucoup de femmes, par exemple, qui travaillaient dans les marchés ou des nounous. Donc, il y a toujours eu des femmes dehors en public qui travaillaient, mais c'était des travailleuses d'un statut plus inférieur que les hommes publics qui faisaient des marchands, des personnages importants. Et c'est là, en fait, que c'est la racine du manque de WC public pour les femmes. Ça date d'il y a 200 ans et du début de la canalisation. Et vraiment, l'idée à la base, c'est que la femme, la place de la femme, c'est dans la domesticité, c'est pas dans le public. Donc, c'est à nous de faire en sorte de nous accommoder toujours à l'infrastructure qu'on trouve autour de nous. Et c'est aussi une idée qu'on apprend aussi aux enfants. C'est pas nous qui changeons le monde, c'est à nous de nous adapter et en fait de se rendre compte que toutes ces choses-là, on peut les changer, et qu'il y a aussi un aspect culturel, parce que c'est pas partout comme ça, c'est pas partout dans le monde qu'il y a une différence de WC public. Donc il y a beaucoup de changements qui doit être fait en Allemagne, en France. Je ne sais pas si c'est... Il me semble que c'était un peu la même chose que j'ai vue à Paris, parce qu'en Allemagne, dans les grandes villes, donc il y a des WC, il y a de plus en plus, heureusement, de WC publics, mais pour accéder à un WC, à une toilette, il faut payer de l'argent, tandis que les urinoirs, elles ne coûtent rien. Et l'idée, c'est qu'un mec qui a besoin de pisser, si on lui fait payer, il va pisser n'importe où. Tandis que nous, vu qu'on n'a pas la facilité, et parce que aussi on se fait agresser sexuellement, tout ça, enfin il y a tout un tas de raisons pour lesquelles apparemment les communautés pensent que c'est OK de prendre 50 cents ou 1 euro pour pisser. Et en fait, le droit de pisser, c'est vraiment un droit de l'homme et de la femme et de personnes de tout genre.
Oui, c'est une question juste de tout le monde, en fait.
Oui.
C'est un besoin fondamental, quoi. Et donc, toutes ces structures pas adaptées nous font perdre du temps, mais aussi jouent sur notre morale, notre charge mentale, puisque ça demande une plus grande organisation et ça nous fait sentir un peu comme en trop ou pas dans le moule.
Oui, les personnes qui ont une maladie chronique ou les personnes âgées, les personnes enceintes, il y a tout un tas de personnes, en fait, peu importe le genre, mais dans la majorité quand même féminin, qui ont des raisons pour lesquelles elles ont besoin d'un accès aux toilettes régulier. Aussi les personnes, quand on a notre règle par exemple, changer un tampon,
un tampon,
voilà.
Ou une serviette.
Voilà, tout ça, c'est des choses et en fait, j'ai parlé à plein de personnes, par exemple, qui m'ont dit « Oui, quand j'étais enceinte, à la fin de la grossesse, je ne sortais plus parce que je n'avais pas accès aux toilettes. » Ou des personnes âgées, des femmes âgées qui, justement, elles ne peuvent pas s'accroupir et pisser entre deux voitures et espérer que personne ne les voit. Eh bien, oui, elles se posent la question « Est-ce que je peux sortir ? Est-ce que je peux aller faire mes achats et après encore aller chez le fleuriste ? Ou est-ce que je rentre tout de suite à la maison ?» Donc, ça a vraiment un grand inconvénient aussi à la qualité de vie, parce que la mobilité en public, en fait, c'est une question de qualité de vie.
Et votre essai évoque donc plusieurs thématiques autour des objets qui ne sont pas adaptés pour les femmes, mais aussi pour toute personne en fait qui ne rentre pas dans les standards patriarcales, donc petite, grosse, noire, queer, en situation de handicap. Ouais. Pour que ce soit concret pour nos auditeuristes, on peut continuer avec un autre exemple dont vous parlez dans votre livre, votre essai, qui est inquiétant, celui de la construction des voitures qui est exclusivement faite pour des hommes cis d'une quarantaine d'années.
Oui, y a la sécurité des voitures, en fait, c'est un développement assez récent, parce que longtemps, c'était soit si une personne survivait ou pas, c'était le Jesus factor. Et à un moment donné, on s'est rendu compte, mais peut-être que le design des voitures, en fait, ça joue aussi là-dessus, Très bonne question qui a tout de suite été la réponse était oui, bien sûr que le design joue un gros rôle, mais ça a duré jusque en l'année 2010 en fait, qu'il y a eu les premières statistiques qui ont été genrées sur le risque d'accident. Et tout d'un coup en 2010 on s'est rendu compte, ah, effectivement, si on fait tous les essais de crash test avec un mannequin qui est fait, justement, vous venez de le dire, pour le Sierra SEM, donc c'est le mannequin qui est utilisé pour les 5 tests qui sont obligatoires pour que l'Union européenne approuve un nouveau véhicule sur le marché, et il correspond à une taille de moyenne d'un homme cisgenre qui n'est ni gros ni maigre. Et ça correspond pas à beaucoup beaucoup de gens et qui ont eu un risque de mortalité mais aussi de graves blessures et de légères blessures qui sont beaucoup plus élevées pour les femmes cisgenres mais aussi pour toutes d'autres personnes qui ne sont pas à l'image de Sierra SEM. Et en fait, il y a un autre crash test dummy qui est plus petit que le Sierra SEM, mais qui correspond à toute la technologie qui est à l'intérieur. C'est juste un modèle plus petit. Donc, ce n'est pas un modèle cisgenre féminin, c'est juste plus petit. Et celui-ci dit le modèle féminin qui est testé uniquement dans le test, mais sur la place du copilote, comme on dit, la place du passager.
Oui, passager.
Voilà, parce que c'est ça la place des femmes dans la société. Donc, et ça, c'est quelque chose qui commence à changer maintenant, mais c'est vraiment très, très lent au changement parce que les constructeurs d'automobiles ont aucun intérêt vu qu'on n'a pas le choix. Il n'y a pas la voiture qui a été faite pour toute autre personne. Il n'y a pas la fonction de la modularité qu'on peut dire je suis une personne grosse, j'aimerais une voiture qui soit adaptée à mon volume corporel, ou je suis une personne avec une maladie chronique, ou je suis une personne enceinte, ou il y a plein de gens. Mais vu qu'on n'a pas la possibilité, on n'a pas le choix, donc on est un petit peu... les seules personnes qui pourraient changer ça, parce que le capitalisme il va pas changer ça, c'est pas dans son intérêt parce que ça coûte très cher, donc c'est la politique qui doit vraiment prendre l'initiative et qui doit se dire bah oui, là il faudrait une illégalité, il faudrait une construction de véhicules qui soit plus modulaire pour que toute personne ait la même chance de survivre à un accident de voiture.
Parce que moi, du coup, la question que je me pose, c'est que des fois, ces objets, ils existent parfois comme les toilettes. Il y a plein de gens qui ont essayé de construire des toilettes qui seraient faites pour toutes les morphologies, pour toutes les personnes de genre. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement les mettre à disposition pour tout le monde ?
Oui, parce que c'est justement pas une question de simplement. C'est pas... Il y a plein de designers, designeuses qui ont fait justement pour les toilettes. Donc, il y a des designs qui sont aptes aussi, par exemple, pour les personnes âgées, parce qu'on peut travailler avec des... des appuis pour éviter de ça, parce que aucune personne aime s'asseoir sur une lunette d'un WC public, c'est franchement dégueulasse, donc c'est pas un design apte du tout. Et il y a je sais pas si c'est le mot correct, mais j'ai appris ça, les WC turcs. Et l'année dernière, j'ai vécu à Istanbul. C'est vrai qu'ils sont partout et c'est beaucoup plus hygiénique. Ça fonctionne pour personnes de tout genre, mais c'est vrai que pour les personnes âgées, c'est plus compliqué de s'accroupir, de se relever, mais on peut faire en sorte qu'il y ait des appuis. Enfin, on peut modulariser, mais pisser, c'est une pratique culturelle qui s'apprend. Et il y a aussi un truc, par exemple... Tous les WC publics à Berlin sont rénovés depuis l'année 2020. Et justement, il y a eu des discussions. Est-ce qu'on va essayer de faire des WC publics ouverts à toute personne de tout genre, expérimenter avec le design pour que ce soit plus accessible et tout ça. Mais tout de suite, il y a une réponse des partis politiques plutôt de droite qui amène des choses comme « Ah, la sécurité des femmes, j'ai demandé à ma femme, elle voudrait jamais pisser dans un WC qui est utilisé par nanani nananer. » Bon, Vous voyez le genre. Et tout de suite, ça, c'est scandalisé par les médias. Après, il y a les journaux qui suivent et le débat n'a même pas commencé qu'il est tout de suite censuré, en fait. Et voilà pourquoi. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le design où il y a des solutions de design qui sont là, déjà. C'est rarement le... Enfin, non pas rarement, mais il y a d'autres cas où il manque le design, mais il y a beaucoup de solutions de design qui sont là. Mais ce qui manque, c'est la volonté de personnes avec un pouvoir politique d'implémenter ça.
Le constat est que c'est une société créée par des hommes cisgenres blancs pour des hommes cisgenres blancs. Et donc, vous venez présenter une conférence sur tout ce qu'on vient d'évoquer auparavant à Rennes 2, qui est un campus universitaire. C'est important pour vous de sensibiliser un public relativement jeune sur ces questions ?
Oui, tout à fait. En plus, je me suis rendu compte que les personnes... Enfin, moi, après-demain, j'aurai 40 ans. Et il y a beaucoup de personnes qui sont plus jeunes que moi qui se sont déjà... Enfin, qui ont été sensibilisés à ces sujets longtemps avant moi. Et justement, de... parce que oui, c'est vrai que je parle de mon livre, mais j'ai vraiment hâte aussi à découvrir ce que les personnes plus jeunes que moi pensent, parce que je me rends compte que enfin, tous les problèmes que j'ai sentis dans ma vie en tant que grandir, mais que j'ai toujours suppressés,
caché
ou pas assumé, en fait, je me rends compte que les personnes plus jeunes que moi, eux, ils ont beaucoup plus de facilité et de vocabulaire aussi pour parler de ces choses-là. Donc, c'est moi aussi qui apprends beaucoup à chaque fois que je parle aux jeunes personnes.
Mais merci pour conclure cette interview. Est-ce que vous direz que ça tend vers du changement un peu, peut-être pour finir sur notre positif ? Est-ce que quand même les consciences commencent à changer ? Est-ce que les politiques seraient prêts à entendre tout ça ?
Oui et non. Parce que faut pas aussi sugarcoating, comme on dit, faut pas mettre de la glaçure rose sur des choses, sur un tas de merde, parce qu'on se retrouve en même temps dans un backlash patriarcal. On est en plein dedans. Il y a enfin beaucoup plus de partis de droite qui prennent le pouvoir. Là, je sais, grand succès, la France a enfin mis le droit de l'avortement dans la Constitution, tout ça. Mais quand on regarde autour de nous, en Pologne, aux États-Unis, en Russie, enfin tout autour de nous, même en Allemagne, le parti d'extrême droite prend le pouvoir. Donc il faut pas, enfin il y a un bon changement, il y a une conscience surtout parmi les jeunes qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent, parce que toutes les questions d'écologie sont aussi liées au féminisme, écoféministe, tout ça. Donc il y a vraiment une vague de changement qui est essentielle et qui est super, mais en même temps, le backlash patriarcal est déjà en train de se passer. Il faut essayer de ne pas se faire submerger par ça aussi.
Je vous remercie en tout cas, Rebecca, de nous avoir accordé cette interview.
Merci et pour l'invitation.
Du coup, votre essai est à retrouver un peu partout en librairie. Il s'appelle Le patriarcat des objets. Merci.
Merci.